Forcalquier, Radio Libertaire 89.4. Bonjour à toutes et tous. Vous êtes bien sur Radio Libertaire et... Excusez-moi, ça commence pas bien. Je tousse un peu, c'est France Mine aujourd'hui en compagnie de Laurence à la technique. Bonjour Laurence.
Bonjour France Mine, bonjour les auditeurs et les auditrices.
Alors comment vas-tu depuis ce fameux week-end du 8 et 9 février?
Je peux dire que je suis pas redescendue encore. Non, c'était très 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 sympa. Ouais, autant la programmation que les gens qui sont venus, c'était vachement sympa.
Voilà, on en profite, Serge en reparlera certainement à nouveau quand il sera là, mais on tient avant tout à vous remercier tous, que ce soit les artistes, que ce soit les techniciens, les bénévoles et tout le public et les danseurs qui sont venus pour fêter ces 40 ans d'une façon extraordinaire le week-end du 8 et 9 février à la Mission Bretonne à Paris. C'était vraiment un chouette moment. Comme le dit Laurence, on a eu un peu de mal à redescendre.
Oui. N'oublions pas de remercier tout particulièrement la Mission Bretonne.
Tout à fait. Oui. Tout à fait. Et, bon, il y avait beaucoup de monde, un petit peu moins le samedi pour les concerts et beaucoup, un peu plus le dimanche pour le bal, mais vraiment, il y avait une bonne écoute, il y avait une bonne ambiance, et on a bien mangé aussi, il faut le dire.
Oui,
hein.
Voilà. Faut le dire.
Et puis vraiment, encore une fois, merci à toutes et tous, et on espère qu'on remettra ça bientôt. Voilà, alors pour cette 1970e émission, je vais vous passer quelques nouveautés. D'abord, je suis tout seul en cette première heure. Et en deuxième heure, nous recevons le grand, grand pianiste Denis Cugnot, qui ne pourra pas jouer en direct parce que malheureusement, au studio, il n'y a pas de piano. Mais Denis Cugnot qui viendra nous parler de la compilation des trois disques qu'il avait fait avec Nano Paley, le duo Paley-Cugnot, Klezmer Ngunsenko. Puis recevrons le duo Chloé Brio-Prieri-Cardi pour leur disque Valeo à Peña. Là, je sais même qu'ils vont jouer en live, Chloé et Pierrick, voilà, encore un grand moment. Et là, puisque vous avez l'habitude maintenant, 40 ans, hein, on vient de le dire, peut-être pas 40 titres, on va voir au moins jusqu'à fin juin, on passe ça comme ça des titres de légende. On en a parlé un peu avec Serge l'autre jour, on s'arrêtera peut-être fin juin, hein. Cette histoire ça aura duré un an. Alors on ne sait pas s'il y aura 40 titres, mais en tout cas, aujourd'hui on va passer de deux titres à la suite d'un immense, immense guitariste qui va... Ça va rappeler beaucoup de souvenirs aux auditrices, aux auditeurs qui ont appris la guitare avec lui. C'est le grand Marcel Dadi. À Marcel Dadi, on va rappeler que c'était un compositeur et guitariste français né le 20 août 1951 à Sousse en Tunisie et qui était mort accidentellement le 17 juillet 1996 dans l'explosion du vol TWA 800 peu après son départ de New York. Voilà. Donc, outre ses albums, Marcel Dadi a contribué à faire connaître les techniques de guitare picking en France en transcrivant et publiant des morceaux et des arrangements de Chet Atkins, Merle Travis, Jerry Reed, Doc Watson et même Antonio Scarlett Jobim et d'autres. Que des grands noms. Et que peut-on dire encore sur le grand Marcel, qu'il a été découvert aux soirées du Centre américain du boulevard Raspail à Paris, les fameux Outnani organisés par Lionel Rochman. Il y avait joué notamment aux côtés de Stéphane Grossman, Hervé Christiani, Michel Aumont. En 72, le magazine Rock and Folk, dans lequel il tient une rubrique mensuelle de technique musicale, publie pour la première fois la guitare à Dadi. Guitare à Dadi qui va devenir une méthode de guitare bien connue et son premier disque qu'il enregistre en 1973 et qui s'appelle La guitare à Dadi. Je pense que les auditrices et les auditeurs qui ont appris la guitare avec Marcel Dadi se rappellent de cette fameuse pochette illustrée par Mandrika. Voilà, c'était le premier en France, premier album en France de guitare acoustique accompagné des tablatures des morceaux. Donc c'était quand même un moment important et la guitare à Dadi est devenue disque d'or et la célébrité du guitariste n'a cessé de s'accroître. Donc on va écouter deux morceaux de la guitare à Dadi et qui s'appelle Song for Chet, dédié à Chet Atkins évidemment, et le célèbre et le fameux et le presque mythique maintenant Dervish Turner. Marcel Dadi pour les 40 ans, 40 titres. Thank you. Franck Allier, Radio Libertaire, c'est Franck Mino aujourd'hui pour cette 1970e émission avec Laurence à la technique. Donc on vient d'écouter deux extraits de la guitare, le premier volume de la guitare à Daddy, qui était sorti au départ chez Sésame Argile et qui avait été réédité en 1992 par Emmy France. Alors qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur Marcel Daddy, parce que beaucoup de... De tous ceux qui nous écoutent ont dû apprendre la guitare avec lui. Il a été ambassadeur des guitares Ovation. Il a fait la scène de l'Olympia en 1974. Sa méthode pour débutants s'était vendue quand même à 127 500 exemplaires, ce qui est énorme. Il avait ouvert un magasin de musique à Paris, le Daddy's Music House, House 6 rue du Douai. Il a été aussi premier importateur des guitares de Marc Godin. Il a fait la promotion des guitares de la marque Taylor. Enfin bref, il a fait beaucoup de choses. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, malheureusement, il est décédé en 1996 lors de l'explosion de l'accident du vol 800 de la TVA, un petit peu après New York. Et après, il y a eu pas mal de concerts en son hommage et aussi un disque qui avait été en hommage fait, un double CD qui avait été fait en son hommage. Voilà, alors ce disque-là, en fait, si vous retrouvez la réédition de la guitare à Didier, vous retrouverez les deux premiers disques en fait sur le même disque, la guitare à Didier volume 1 et Daddy's Folk volume 2. Voilà, le premier était sorti en 1973, ben les deux d'ailleurs étaient sortis en 1973. Et là, on va complètement changer d'ambiance, mais on reste avec un autre grand guitariste, Stefano Toracinta, qui est venu deux fois déjà dans l'émission, et c'est son troisième album qui s'appelle La Belle Vie. Alors voilà, le nouvel album est disponible depuis le 7 février dernier chez Alogia, l'autre distribution. Et on va écouter tout de suite le morceau titre de l'album qui s'appelle La Belle Vie. Vous allez reconnaître, c'est une chanson qui a été popularisée par un certain Sacha Distel. C'est un extrait donc du troisième album du guitariste corse Fanu Torracinta, un disque qui s'appelle La Belle Vie. Vous avez reconnu cette chanson qui a été popularisée par Sacha Distel. On retrouve dans ce disque toujours la même équipe, hein, puisque c'est les mêmes musiciens qui étaient déjà sur les précédents disques. Bastien Brison au piano, Benji Witterstein à la guitare rythmique, William Brunard à la contrebasse, plus un quatuor à cordes ici avec Jules Dussap, Alexandre Pascal, Valentine Garilli, Apolline Lafay et Philippe Magnès à la direction. Alors dans ce disque, on retrouve plusieurs reprises, 5 exactement, plus 8 compositions personnelles de Fanu Torracinta. Et puisqu'on a un petit peu de temps, on va passer un deuxième titre de ce disque, La Belle Vie, une composition de Fanu Torracinta qui s'appelle Petite Valse. Voilà, c'était un deuxième extrait du disque de Fanu Torracinta, La Belle Vie. Et Fanu sera au Studio de l'Ermitage le 18 mars 2025 et avec le groupe Génération Django au Bal Blomet le 9 avril 2025. Ces deux concerts à Paris. Et là, on va passer un titre d'un duo, père et fils, le duo Barret. Le disque s'appelle Le Jardin Oublié. C'est donc un duo accordéon-piano. Alors, Valentin Barret, que vous allez entendre, joue sur un piano Steinway dès 1974. Et pour les grands spécialistes de l'accordéon, Laurent Barret joue l'accordéon diatonique Bertrand Gaillard, 3 rangs, 18 basses, et sur un Cassianari Andri, 3 rangs, 12 basses. Alors, c'est donc un duo famille, puisque Valentin est le fils de Laurent. Et ils tournent beaucoup, ils font des stages aussi. Laurent anime pas mal de stages d'accordéon, en particulier dans leur région, la Normandie. Et donc le titre du disque s'appelle Le Jardin Oublié, et c'est le morceau qu'on va écouter. C'est une gavotte caresse. Thank you. Vous êtes bien toujours sur Folk Allier, Radio Libertaire 89.4. C'est France Mine aujourd'hui et Laurence à la technique. Donc là, on vient d'écouter un extrait du disque du duo Barret, Laurent et Valentin Barret, Le Jardin Oublié. C'était, comme je vous l'avais dit, une gavotte caresse. Alors, on va écouter là maintenant un deuxième, puisqu'ils ont eu la gentillesse de m'envoyer le disque. On va s'écouter un deuxième extrait de ce disque qui est sorti chez Entre Deux Productions. Une composition de Valentin Barret qui s'appelle « Le café sur la place » et c'est une valse. Voilà, vous êtes toujours sur Folk Allier, Radio Libertaire 89.4. C'est toujours France Mine et Laurence à la technique. Donc, on a écouté un deuxième extrait du duo Barret Le Jardin Oublié. C'était une valse qui s'appelle Le Café sur la Place, une composition de Valentin. Alors, pour revenir un petit peu et rapidement sur la carrière de Laurent Barret, il a été formé auprès de musiciens réputés tels Marc Perron et bien d'autres. Hein. Marc Perron, incontournable, évidemment. Et il est musicien au sein de Marais de Paradis, Feu de Plancher, Quai des Brumes et du Haut-Barré, évidemment. Et il enseigne également dans les associations Galaor à Rouen et les Amars à Yport. Voilà donc un vrai Normand. Et si vous allez en Normandie, eh ben voilà, vous entendrez sûrement parler du duo Barret ou de Laurent Barret ou de Valentin Barret. Là, on va continuer. Là, on va en Afrique du Sud, carrément. C'est le deuxième disque de Abel Selaokoe, un disque qui s'appelle Hymns of Bantu. Le disque est sorti le 21 février chez Warner. Et Abel Selaokoe est un violoniste sud-africain originaire de Township qui fait découvrir au monde entier le violoncelle de façon tout à fait novatrice et inédite. Alors, il mêle des collaborations avec des musiciens classiques de renommée, avec des beatboxers. Bon, enfin bref, rien ne l'effraie. Il combine parfaitement improvisation et performance virtuose avec chant, percussion corporelle. En 2016, pardon, il forme le trio Chez Saba, musique africaine, et cofonde également le Kabontu. Aujourd'hui, donc, c'est son deuxième album qui célèbre son héritage sud-africain et qui retrace le chemin ancestral qui mène à ses vastes influences. Alors, ses influences, 12 morceaux, là, écrits, pour des ensembles allant des percussions africaines à l'orchestre, en passant par le violoncelle solo et la basse. Et on va écouter un morceau qui s'appelle Emmanuel. Thank you. Vous êtes toujours sur Folkallier, c'est toujours Franz Mine, c'est toujours Laurence à la technique. Et donc là, on vient d'écouter un extrait du deuxième disque d'Abel Selak Okoye, Hymns of Bantu, un disque qui est sorti chez Warner. Alors, pour aller un petit peu plus loin concernant Abel Selak Okoye, il interprète donc la musique traditionnelle Bantu aux côtés de compositions de Bach et de Marin Marais dans ce disque, soulignant la continuité entre les héritages musicaux plutôt que leurs différences. Voilà un discours qu'on aime bien. Et on va continuer aussi avec un disque on va dire, entre musique du monde, musique traditionnelle et jazz. C'est le duo Dendoum avec Hervé Selcal et Caroline Faber. Le disque s'appelle Cap. Hervé Selcal, peut-être vous en rappelez, les plus fidèles auditrices, auditeurs. Hervé était venu accompagner la chanteuse réunionnaise Gwendoline Absalon il y a déjà quelques années. Je crois que c'était il y a au moins 5 ans, au moment d'une période un peu douloureuse pour tout le monde. Ils étaient venus entre deux confinements, ils avaient pu venir et Hervé avait accompagné. C'est une des rares fois où j'ai vu un clavier dans le studio immense de Folcalier. Voilà, donc c'était pas un vrai piano, c'était un clavier électrique et ils avaient joué tous les deux. Alors on va écouter donc, comme souvent avec Hervé, c'est on va dire un métissage entre musique des îles, des Antilles et jazz. Et là on va écouter un morceau qui s'appelle Comparison. Alors je vous dis ce qui est marqué sur le livret par rapport à ce morceau. Comparison, un homosexuel antillais a trouvé refuge à Paris, mais la nostalgie le taraude. À Paris avant-guerre, les Antilles faisaient biguiner Paris, mais le Brésil y jouait aussi le coro. Cette composition évoque ces deux styles majeurs, donc la biguine et le coro. Cette composition évoque ces deux styles majeurs de musique créole. Ah, je sais pas si j'ai bien coro. Choro. Voilà, il y a des spécialistes qui sont arrivés dans le studio et qui vont me dire, comme d'habitude, je prononce mal, mais c'est le choro, donc entre Bikin et choro, et c'est le duo Dendoum, Hervé Selcal et Caroline Faber.
Douceur secrète, pomme cannelle. qualsiasi idea, tutto un canella.
Franck Allier, Radio Libertaire. Voilà, je ne sais pas si on m'a entendu parler. Non, ça va, j'ai pas dit trop de bêtises.
Non, j'ai pas allumé ton micro.
Bon, ça va. Par contre, je t'entends plus dans le casque. Bon, c'est pas grave. Alors, on va finir un peu ces nouveautés avant de recevoir nos invités avec un disque. Serge avait déjà passé deux extraits. C'est le disque de Rémy Geoffroy qui s'appelle Carrefour des Anges. Je sais que Serge avait passé le titre, donc le titre de l'album Carrefour des Anges et le titre chanté avec Bert Yates Wierichmann. Là, on va passer ce qui était en fait le premier single du disque qui s'appelle Rosa Alba. C'est le titre numéro 2 du disque. Voilà, Rémy Geoffroy. Carrefour des Anges.
Thank you.
Francalier Radio Libertaire, c'est Franz Mine, toujours, hein, depuis midi. C'est la 1970e émission. On a fêté les 40 ans il n'y a pas longtemps, on rappelle, ben, le week-end dernier, le 8 et 9 février à l'émission bretonne, et c'était super. Et je suis super content aussi, à aujourd'hui, hein, une semaine après, de recevoir nos invités. On va commencer par la seule dame présente ici, Chloé Briot, bienvenue.
Bonjour.
Bonjour, parle bien devant le micro, qui est venue avec Pierrick Hardy. Bienvenue Pierrick.
Bienvenue.
Et Denis Cugnot. Ah, vous êtes déjà... Non, Pierrick, t'es pas venu encore.
Non.
Et Chloé, t'étais venue donc il y a 4 ans, je crois.
Quelque chose comme ça
pour ton EP de l'époque.
C'est ça.
Et puis Denis, t'étais venue pour nous parler d'un disque de reprise, hein, je ne sais pas si on peut dire ça, au piano, des compositions de Nano Paillet.
Oui, c'était prise et reprise, puisqu'il y avait des compositions originales et des reprises
voilà.
qu'il avait écrites pour piano clarinette et qu'on avait transcrit juste pour piano.
Puis ben, on peut le dire, on s'est vus tous il y a quelques mois à la grande fête au Cora pour le départ de François de Georges à Radio France. Au Cora Couleur Musique qui continue hein, d'ailleurs, avec je ne sais plus le nom de la nouvelle animatrice, peut-être...
Aliette Delalleux.
Voilà, Aliette et Delalleux. Puis je peux même, je sais, qu'elle a rendu hommage à Gabriel Yacoub lors de sa dernière émission qui est décédée il y a quelques temps. Voilà, et donc toi Nano, si t'es venu, c'est pour une compile, on peut dire ça, des 3 disques que tu avais enregistrés avec Nano Paillet.
Ouais, là, c'est vraiment une compilation, une anthologie, ouais.
Une composition de 3 disques, hein, c'est ouais, ça. Ouais. Là, il y a quoi, on va dire 2 disques, hein, quand même. Hein,
ouais.
Et voilà, superbe, c'est magnifique et tout. On va commencer par toi, Chloé. Hein. Alors, donc, on se connaît depuis un petit bout de temps, mais comment dire, tu es multi-instrumentiste, vocaliste, multi-tout, quoi. Hein, tu es chanteuse, auteur de chansons, chef de chœur, voilà, tu es multiple.
Oui, alors aujourd'hui je suis avec Pierrick Hardy, donc je ne suis pas en mon nom propre, mais on est en duo. On a développé ce duo depuis 2022, le premier concert c'était en 2022, et on a vraiment commencé à bâtir un répertoire surtout de fado, autour duquel se sont greffées quelques chansons brésiliennes. Et on a vraiment voulu travailler ça comme un duo avec deux voix qui s'entremêlent. C'est-à-dire que ni l'un ni l'autre, on est interchangeables. On fonctionne vraiment comme un groupe. Ce qui est dans ce domaine-là musical assez peu fréquent, parce que souvent on a la chanteuse de fado ou le chanteur de fado qui développe son propre projet de reprise, et puis les musiciens derrière qui accompagnent. Et nous, on a eu envie vraiment de créer cette formule en duo avec Pierrick, qui a fait tout un travail de relecture et d'arrangement des morceaux qu'on interprète. Donc voilà, et on a sorti un disque qui s'appelle Vale o a Pena et qui est sorti en juin 2024.
D'accord. Mais pour revenir un petit peu, parce que les auditrices et les auditeurs ne vous connaissent pas forcément, donc je disais que tu étais chanteuse, auteure de chansons, chef de chœur, et tu as chanté aussi avec le chœur Microcosmos, hein, que c'était quand même une expérience importante.
Oui, oui, c'était ma première expérience en tant que chanteuse très importante, puisque c'est là-bas que j'ai vraiment appris à chanter un peu plus, disons, de façon un peu plus approfondie qu'à la fac quand je faisais partie des chœurs ou que j'avais des cours de chant par-ci, par-là. C'était une expérience très enrichissante et ça m'a donné envie de poursuivre dans la voie du chant, mais pas du tout dans le domaine lyrique qui ne m'intéressait pas, enfin dont le répertoire ne m'intéressait pas, mais dans le domaine des musiques du monde. Et donc j'ai intégré les Globetrotters en 2010, et c'est là où j'ai rencontré Pierrick qui enseignait là-bas.
D'accord. Ah, je ne savais pas, Pierrick, que tu avais été enseignant là-bas. J'en connais une autre d'ailleurs qui est enseignante aussi là-bas. On va en parler. Mais tu as fait partie aussi, et on a eu la chance, hein, puisque c'était le concert de Ninon Valdaire au studio de l'Ermitage mardi, d'avoir la reformation de la Somatinas avec Valentine G, toi et Ninon, pour un soir. Hein, parce que ce groupe a tourné entre 3 ans, entre 2018 et 2021. Ça a été aussi une expérience importante pour toi.
Oui, tout à fait. Ouais,
tu m'avais dit, je me rappelle à l'époque, que c'est ton premier vrai groupe professionnel. Même.
Oui, c'est vrai. En tant que, disons que j'avais fait partie de différents projets avec lesquels j'avais fait des concerts, mais c'était le premier groupe où il y avait une dimension un peu plus importante dans la structuration du groupe, dans les projets qu'on faisait. On a fait une tournée en Champagne. Voilà, il y a eu différentes choses et c'était en effet une expérience, une de mes premières expériences un peu importante professionnelle, quoi.
D'accord. On va reparler du duo. On a plus d'une heure, c'est formidable. Pierrick, pour les gens qui ne connaissent pas, rapproche-toi bien du micro. Tu es compositeur, arrangeur, guitariste, clarinettiste, tout ça. Au fil du parcours, tes musiques se sont enrichies d'influences diverses. Je vois répertoire classique, contemporain, traditionnel, jazz, même dans les arts visuels et les littératures. Tout ça.
Tout ça, oui.
Ouais, depuis, comment ça a commencé?
Sinueux, le parcours, oui. Je parle assez près du micro, là, ça va. Sinueux, le parcours, oui. Oui, j'ai enseigné, j'ai écrit et j'ai joué. Et j'ai fait ça dans différents styles de musique. La dernière chose au niveau de l'écriture, c'était une commande pour l'Orchestre de Normandie, avec deux solistes, Jean-Marc Larchet et Noli Caggio, qui jouent du taiko, et Jean-Marc qui joue du saxophone, soprano. Ça, c'est pour l'écriture. Pour ce qui est des concerts avec Chloé, depuis 2 ans, on joue beaucoup. On a fait pas mal de concerts avec ce projet. Et puis aussi avec le trio de Claude Chamichian, avec Catherine Delaunay et moi. Et c'est la musique de Claude. Et puis, il y a eu un quartet aussi, avec les mêmes, tous les trois, plus Régis Subi, qui était ma musique, par contre, que j'avais écrite pour ce projet, qui s'appelait L'Ogre Intact, et puis de l'enseignement, voilà, et un solo aussi de guitare en hommage à John Renbourn.
John Renbourn, pas n'importe qui. Bon, ben, on va reparler après de votre duo, et puis alors Denis Cugnot qui était venu, donc il n'y a pas si longtemps, hein, Denis, il y a un an et demi, avec Leïla Duclos qui était là ce jour-là, et ouais. Puis avec le fils, Alma Cinti, je crois, le groupe.
Mais oui, c'était le fils Castiello, là, c'était...
Voilà. Ouais. Donc, Denis, alors toi, au début, une solide formation classique, hein, aussi, on va revenir un petit peu, professeur de musique, directeur de conservatoire, et puis à partir de 1983, rencontre amicale et musicale avec Nano Paley.
En fait, j'avais rencontré Nano dans les groupes de free jazz à la fin des années 70, mais 83, donc on était devenus amis, mais pas à l'improvisation, qu'on appelait pas libre, mais free. Mais c'est libre. Et puis donc en 83, on était tellement amis qu'il m'a amené quelques morceaux qu'il tenait de divers groupes. Ça n'existait pas vraiment d'abord le terme klezmer n'existait pas, mais par contre il connaissait Edishav Shafirovitch. Il avait fait partie de troupes de théâtre où il y avait des musiques juives. Donc c'est lui qui m'a amené, lui qui n'est pas de confession israélite, qui m'a amené un premier répertoire, et entre autres de Gerard Feynman. Et ça, on va en reparler tout à l'heure.
Ouais, parce que l'histoire, elle est passionnante, cette histoire de renouveau de la musique klezmer. J'ai lu quelque part que tu avais été vraiment un des artisans du piano et même de la musique klezmer qui avait complètement disparu, quoi.
Alors, en fait, là, on a fait un colloque en octobre, et maintenant j'arrive à préciser exactement de quoi il s'agit. C'est-à-dire que je dirais presque malheureusement, mais c'est comme ça, qui a refait connaître le terme. De définir le klezmer comme un style de musique. Ça existait, et ça n'a jamais existé en France, parce que c'était une musique de l'Est et d'Europe centrale et orientale. Mais donc, j'ai pas participé au renouveau de la musique klezmer en France, puisqu'elle n'existait pas. Mais par contre, j'ai carrément participé à l'émergence du mot. J'ai participé au renouvellement du nom. Et je sais pas ce que j'en pense maintenant.
D'accord.
C'est musique traditionnelle, en fait.
C'est ça. Je vois que tu avais marqué à la fin d'un papier, tu disais les musiques traditionnelles sont-elles condamnées à être anciennes? Ne pourrait-on pas composer de la musique vieille tout de suite, etc., etc. C'était à la fin d'un article que tu avais écrit. Mais c'est quand même passionnant, cette histoire de musique, parce que le yiddish était la langue maternelle de ta maman, qui était née à Varsovie. Mmh. Et puis, il y a eu un peu une absence de transmission, on peut dire.
Oui, c'est la volonté de tous ces juifs de l'Est artistes d'avant-guerre ayant immigré avant-guerre, d'assimilation, d'intégration, d'assimilation sur la France, pays des droits de l'homme, de la liberté. Toutes ces familles quittant la Pologne, en l'occurrence pour la famille de ma mère. Ma mère, elle est née en 29, elle est toujours en vie, j'allais la voir après, je raconterai... Tu m'as invité.
On a le temps.
Elle a 96 ans. Mais c'était la volonté totale. C'était le pays des droits de l'homme, de la liberté, donc de fuir les pogroms et de fuir l'antisémitisme. Après, il se trouve que dès 39-40, il y a les premières lois raciales. Mon grand-père va être déporté à partir de la rafle de 41, de la rafle du billet vert de 14 mai 41, et il ne reviendra pas. Donc voilà, c'était la mauvaise surprise de ces juifs de l'Est qui venaient connaître le pays des Lumières et qui, à un moment donné, ont été dans la nasse pétainiste de Laval.
Alors, comment, pour revenir à la musique Klezmer, on pense aussi à David Krakauer, par exemple.
Alors ça, c'est vraiment... Si tu veux, ce qui se passe, c'est qu'il y a vraiment deux courants. Et moi, je fais partie du courant, et j'ai eu la chance que tous les clarinettistes avec qui j'ai travaillé, quels que soient leurs âges, avaient comme modèle émotionnel Gyula Feldman. Et effectivement, David arrive en fin des années 90 avec toute l'influence new-yorkaise du jazz, de l'improvisation. Et ce qui se passe, c'est que il va y avoir l'idée que le klezmer, évidemment, il a été métissé aux États-Unis en 1920, entre 1910 et 1930. Mais moi, mes références, c'est obligatoirement l'âme européenne. Et donc, il est beaucoup... Mon klezmer est beaucoup plus douloureux et beaucoup plus un travail de mémoire, d'hommage aux poètes, aux musiciens assassinés, que le côté un peu, je dirais, festif, que je reproche pas. Mais ce qui fait que Krakauer, effectivement, d'abord c'est un très très bon musicien et puis tellement créatif, mais il va introduire vraiment une sorte de klezmer extrêmement bien inventé, mais extrêmement de groove, de danse, et tout, voilà. Donc en fait... Il y a vraiment de courant. Et moi, donc, Nano Pélé, c'était sa référence, c'est Gyula Feldman. Après, j'ai la chance de connaître le jeune Yom, qui a 20 ans. Et sa référence, c'était Gyula Feldman par son premier prof de clarinette, Franck Seilly. Ensuite, là, je travaille avec Yannick Tepo, qui a une dizaine d'années de moins que moi. Sa référence, c'est Gyula Feldman. Donc, de toute façon, moi, dans mon travail, enfin, ma volonté de refaire entendre un monde disparu, une langue disparue, une langue musicale disparue, j'ai besoin de cette émotion, de cette hypersensibilité. Cette hypersensibilité, elle est totalement critiquée par mes collègues, mes consoeurs et confrères américains, qui c'est une trahison totale. Et tout. Mais effectivement, eux, ils ont pris comme base les enregistrements qui étaient déjà métissés entre des arrivants entre 1900, en gros, les premiers disques de 1920-1930. Après, il n'y a plus de klezmer, même aux États-Unis.
D'accord, il y a le fait que c'est de l'autre côté de l'Atlantique et qu'il y a tout cet océan qui fait la différence.
Bah oui, parce que déjà, c'est un changement d'univers. Tu quittes le village, tu arrives dans une ville énorme. La chose qui est absolument pas dite, mais les enregistrements à l'époque, au niveau des micros, c'est très rudimentaire. Et par exemple, même le quatuor à cordes classique, il est enregistré avec des violons à pavillon. On ne sait pas les prendre. Ça veut dire que le violon, qui est l'instrument roi, l'instrument de l'émotion européenne en musique juive, ce violon de Chagall, il va disparaître et il va être remplacé par des instruments où le micro directionnel peut prendre, donc ça va être l'arrivée, y compris de la clarinette et des cuivres. C'est-à-dire que dans les multiples décontextualisations du passage de l'Est à New York, donc à ses premiers enregistrements, il y a tout qui est modifié. Du village à la grande ville, l'enregistrement, et puis ça devient une musique de scène ou de cabaret ou même d'endroits malfamés alors que c'était dans le village. Enfin, bon. Alors effectivement, les Américains, mes confrères et consorts, ils peuvent prendre ça comme modèle, mais qui nous laissent, nous, Européens, réinventer, et à partir des bouquins qu'on lit, des poèmes qu'on connaît, du 19e, du 20e siècle, qui nous laissent notre sensibilité alors qu'il y a un vrai combat.
D'accord, c'est vraiment passionnant et on va en reparler. Je reviens vers toi, Chloé, Pierrick, je reviens vers vous. Pour revenir à votre répertoire de fado et un peu de chansons brésiliennes, comment c'est fait? Peut-être, je sais, toi, Chloé, qui va peut-être pouvoir me répondre, comment s'est fait la découverte de ce répertoire?
Moi, j'écoute du fado depuis très longtemps. C'est une des musiques qui m'a bouleversée à l'adolescence, que j'ai découvert par le prisme de Misia, une chanteuse qui est morte l'année dernière et qui faisait déjà, elle, un travail de relecture de cette musique. Et après, j'ai écouté beaucoup d'autres chanteuses et chanteurs de fado, et puis je suis allée un peu au Portugal pour connaître un peu cette musique un petit peu mieux. Et j'en ai chanté beaucoup plus tard, en fait. Quand j'étais au Globetrotter, on a eu une masterclass de fado et j'ai commencé à en chanter à cette époque-là. Et c'était assez évident, le lien entre moi et cette musique. Et voilà, j'ai continué simplement à explorer ça. Et Pierrick, lui, connaissait très bien la musique brésilienne. Et donc, quand on s'est retrouvés pour faire les premières répétitions ensemble sans avoir aucune idée de ce qu'on allait faire de ça, on a un peu croisé simplement nos références respectives, quoi. Pierrick, je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose.
Non. Pas grand chose. Moi, je connaissais le fado pour en avoir écouté. Et ça a été assez immédiat. On a enregistré la première répétition et le lendemain, c'était.
Et dans ton style de guitare.
Évident.
Dans ton style de guitare, est-ce qu'il y avait déjà quelque chose du fado ou tu as réappris Est-ce que c'était proche, par exemple,
non,
de la guitare brésilienne?
Ça m'a intéressé beaucoup d'écouter des kilomètres de fado, là, depuis trois ans. De musique, je veux dire, très différent de gens des années 50 ou des gens des années maintenant, enfin je veux dire des années 2000, et puis d'essayer de faire quelque chose d'autre, de différent. Que de toute façon, on peut pas s'attaquer au fado traditionnel où il y a une basse acoustique, une guitare soliste, la guitare portugaise, et puis la guitare classique, quoi, si je puis dire. Ce trio-là, fallait faire autre chose pour que ça marche en duo, guitare et voix. Voilà. Ça m'a intéressé de relire ça, et aussi parce que ça m'a plus qu'intéressé. Ça m'a passionné beaucoup parce que il y a des chansons qui sont extraordinaires, je trouve, dans ce répertoire. Qu'on ne connaît pas forcément, d'ailleurs, mais...
On connaît un petit peu, quand même, le fado, depuis quelques années, avec le renouveau, toutes les grandes interprètes, et même Amélie Rodriguez, quand même. Et puis, il y a une forte communauté portugaise en France, aussi.
Oui, oui, mais si on ne s'intéresse pas vraiment à cette musique-là, on le passe à côté, on ne l'entend jamais, je crois. Il faut vraiment aller la chercher, quand même, hein.
On va écouter un premier extrait de votre disque. Tu nous rappelles, tu vas mieux le prononcer que moi, Chloé.
Alors, le disque s'appelle Vale ou à peine.
Et on va écouter le deuxième titre du disque, Saude Vaite Embora. Je l'ai bien prononcé.
Ah, ok. Tu voulais pas mettre Foy, Déo?
C'était celui-là qui était prévu, puisque tu m'avais dit...
Non, je t'ai dit en un, Foy, Déo.
Ça vous ennuie qu'on passe ça? C'est ce que tu m'avais marqué, mais bon... Bon. Alors, Saude Vaite Embora, et puis tout à l'heure, vous allez nous jouer deux morceaux. C'est parti.
Olho a terra, olho o céu e tudo me fala de ti. Do teu amor que perdi quando a minha alma se perdeu. Sim, a única verdade presente no nosso amor tem como imagem a cor tão bela e triste da saudade. Saudade vai-te embora do meu peito tão cansado. Leva para bem longe este meu fado. Ficou escrita no vento esta paixão e a noite o vento. A esquecer a tempestade. Também quero olvidar esta saudade. Ai, de mim que não consigo. Volto, amor, porque ver Vai se a dor fica alegria, vai se o amor fica amizade. Sou na parte do meu peito, está profunda saudade. Porque será que não vens espreguiçar-te nos meus braços? Porque será que me tens na poeira dos teus passos? Saudade, vai-te embora do meu peito, tá alcançando. Leva pra bem longe este meu fado. Ficou escrita no vento esta paixão e a noite. Esquecer a tempestade. Também quero olvidar esta saudade. Ai, de mim que não consigo. Volto amor, porque verdade.
Calier, Radio Libertaire, c'est France Mine, c'est la 1970e, c'est toujours Laurence à la technique et je suis toujours très heureux d'avoir nos invités, Chloé Briot, Pierrick Hardy et Denis Cugnot. Alors donc, tu nous dis un morceau, Chloé, Pierrick, sur un morceau. Tu nous dis quelque chose, il y a quelque chose à dire sur ce morceau, évidemment, comme sur tous les autres morceaux d'ailleurs.
Est-ce qu'il y a quelque chose à dire sur Saudade vai tembora? C'est un morceau qui dit, alors il y a ce mot très dans le texte, très très particulier, qui fait vraiment partie de l'âme du Portugal et du fado. C'est la saudade, c'est cette espèce de nostalgie, le bonheur d'être triste ou la tristesse d'être joyeux, qui est l'ambivalence qu'on trouve d'ailleurs dans d'autres cultures. On n'a pas de mot pour traduire ça en français. Donc c'est Saudade, va-t'en loin de moi. Et voilà, c'est une chanson comme il en existe plein dans le fado, un texte qui dit.
Et comment ce répertoire tu l'as trouvé, par disque, par internet, en rencontrant des musiciens?
Alors en fait. En écoutant différentes, en tombant sur différentes versions de différents interprètes, en écoutant beaucoup de choses, c'est vrai que moi je suis beaucoup partie du répertoire d'Amalia. Et après,
Amalia Rodriguez.
Oui, Amalia Rodriguez, pardon, français. Amalia, c'est.
C'est comme pour Miles, on dit plus Miles Davis, on dit Miles.
Voilà, c'est ça. Ou alors Chloé, hein. Chloé Pierrick.
Mais
en même temps, on dit Monk.
Et Denis.
Oui, on dit, c'est vrai, on dit Monk. Oui.
En même temps, on dit Monk.
Non, mais voilà, en fait, c'est des recherches, beaucoup, beaucoup d'écoute. Et puis, en fait, on a, à chaque fois, on a fait avec Pierrick plein de tentatives aussi. Il y a des morceaux sur lesquels ça a matché tout de suite parce que Pierrick avait une idée de relecture assez immédiate. Et puis d'autres pour lesquels on a fait des tentatives, mais on a un peu laissé tomber parce que ça fonctionnait moins par rapport à ce qu'on voulait en faire tous les deux. Ce que je voulais dire aussi par rapport à ce que Pierrick disait tout à l'heure, c'est que justement, comme on n'est pas des fadistes traditionnels, qu'on n'est pas né à Lisbonne, qu'on n'a pas appris cette musique dans les clubs de fado comme les gens le font là-bas, On a pris vraiment ce parti de décaler un peu la chose, parce que sinon on fait forcément moins bien que ce qui est fait là-bas, alors que en étant en France et en ayant cet amour de cette musique, mais pas cette culture qui va avec, dans nos origines, on a vraiment, je sais plus le début de ma phrase, pardon, je me suis un peu embrouillée.
Si, c'est très clair.
Mais on s'est dit que c'était une grande liberté à prendre pour nous de justement déplacer ça et d'en faire ce qu'on en fait. Et cette liberté, on ne l'aurait pas forcément prise si on était lisboète.
Donc voilà. C'est une relecture vraiment personnelle du duo, quoi. Hein.
Oui.
Oui, avec des influences importantes, forcément. Mais on a joué il y a un an dans une maison de fado à Lisbonne. Donc on avait, comment dire, certaines appréhensions de présenter ça. Voilà, c'est comme quelqu'un qui fait du rap et qui sort son disque à Harlem, c'est pas facile non plus. Et on a été très touchés par les retours, en fait. On nous a dit qu'on faisait notre fado. Je trouve ça beau de dire ça. Enfin, je veux dire, de pas tomber à bras raccourcis et dire non, le fado, c'est pas ça. Mmh. Il y a un truc dans cette musique, je trouve, qui s'est transformé, justement, avec des gens qui ont ajouté des instruments différents, une lecture différente de ça, une manière de chanter différente. Voilà. Je crois que c'est ça qui est bien, c'est de faire ce qu'on est à travers cette musique qu'on a choisie. Après, on va chercher, quoi.
Oui, bien
ça,
sûr.
Ça vient pas de nulle part. C'est que ça mûrit, quoi. Je veux dire, on peut écouter une version pendant des mois et puis après faire sa lecture parce que c'est le moment de la faire. Avant, c'est trop tôt.
Je crois que il y a une compréhension de la musique à avoir qui est plus une compréhension émotionnelle que intellectuelle ou que de forme. C'est la chanteuse Lizzie qui est une amie que peut-être tu connais, Franzmin, Lizzie, oui. qui fait du fado aussi, qui elle fait du fado sous une forme assez traditionnelle avec guitare portugaise et viola. Une super chanteuse, et elle est venue nous voir à un concert et elle m'avait dit après, c'est intéressant parce que ça questionne vraiment sur qu'est-ce que c'est le fado en fait, parce que quand on vous entend, c'est vraiment du fado parce que l'âme du fado est là, et en même temps c'en est pas tout à fait parce que vous le faites pas du tout de façon académique, et c'est intéressant d'amener cette question là.
Tout à fait, c'est une question vraiment intéressante qui est même un petit peu à la base de tous les débats sur les musiques du monde actuellement. On revient vers toi, Denis. Alors moi je suis vraiment étonné par toutes tes connaissances maintenant sur toute cette musique apparemment, donc c'est vraiment des recherches que tu mènes depuis longtemps. Alors au départ, dans les années 70, tu avais rencontré plein de musiciens comme, je pense, Teddy Lasry, Dalila, Racinta, Benzimet, etc.
Oui,
et tu étais aussi dans le groupe Arcane 5.
Ça, c'est Mano, oui.
Voilà. Mmh. Et donc, tout ça, ça a joué pour ta connaissance du klezmer et l'envie après d'en faire avec Nano.
Ouais, c'est une révélation avec Nano. Mais en 1972, on a ce premier disque de Gyula Feldman, oui, qui intitule.
Oui, parle-nous de Gyula Feldman.
Ben oui,
parce que le prochain morceau, le premier morceau que je vais passer, justement,
c'est le
morceau.
C'est ça. Tu vois, je t'ai laissé choisir, c'est Gyula Mon Amour.
Gyula Mon Amour.
Dans notre premier disque en 89. Mais Gyula, en 72, il fait un premier disque. Il est musicien classique à l'orchestre d'Israël. Il est né à Buenos Aires. Il est toujours en vie. Il est né en 1936. Et donc là, il va faire un disque. D'ailleurs, ses copains de l'orchestre classique ne voient vraiment pas pourquoi un musicien classique se met à jouer une musique populaire de mauvais garçon. Il faut savoir, ces musiciens, d'abord c'est une musique pas religieuse évidemment, le klezmer, mais c'est surtout des musiciens ambulants et qui sont des mauvais garçons, qui sont pas religieux, qui ont pas un rond, qui piquent et tout. Donc quoi, les mecs de l'orchestre d'Israël naissant, qu'est-ce que tu vas faire avec nos anciens, enfin, ces mauvais musiciens? Et donc, comment il intitule son disque? C'est Jewish Soul Music, c'est-à-dire la musique de l'âme Jewish, c'est pas le mot klezmer. Et par contre, aux États-Unis, en 75-76, il va y avoir les premiers groupes qui vont s'intituler The Klezmerim en 1976.
Oui.
Et donc on tourne autour de ça, on tourne. Est-ce que c'est sound music, c'est Jewish blues, c'est quoi, enfin, c'est musique de l'âme populaire. Et comme, regarde là, tu as fait la fête de Folcalier à la maison de la Bretagne, mais les musiciens bretons, ils disent pas, quand il y a un mariage, on dit pas, tiens, on va faire venir de la musique bretonne, on fait venir des musiciens. En Irlande, on fait venir des musiciens. Enfin, c'est-à-dire, nommer une musique populaire, tu la nommes pas dans l'endroit, dans l'aire géographique où elle existe. Tu dis pas, tiens, tu vois le breton et dis, oh, bah, je vais faire venir de la musique bretonne. Enfin, c'est, tu vois, ça serait une tautologie, un truisme. Donc en fait, on nomme pas, on dit, les mecs, ils faisaient de la musique. Il se trouve que après on l'a intitulé ça, tu vois, ou comme c'était des musiciens ambulants, le mot ça veut dire klezmer, ça veut dire musicien, mais mauvais musicien, tu vois, parce que le bon musicien, celui qui sait lire et écrire, s'appelle musikant, c'est en yiddish, c'est le mot allemand. Donc un klezmer, c'est celui qui sait pas trop bien jouer, quoi, historiquement. Donc maintenant c'est bien parce que c'est joué convenablement.
D'accord. Et donc parle-nous quand même de Gyula Feldman, ouais, qui a eu une telle importance.
Ouais, c'est une... et il est haï par les Américains toujours. Mais totalement haïf, une énorme carrière, tu vois, en particulier en Allemagne, évidemment, avec la culpabilité des Allemands. Et il vit en Israël. Et, mais en 93, Ariane Mouchkine le fait venir au Théâtre du Soleil, parce qu'elle l'a découvert en Allemagne, où il joue devant 4-5 000 personnes. Et en fait, tu vois, un mois avant les deux dates qui sont en octobre 93, la réservation marche pas bien, parce qu'à l'époque, si tu veux, en 93, personne connaît, mais là c'est zéro personne à part quelques musiciens, le mot klezmer ou ni Gyula Feldman, tu vois. Et c'est à partir de là, donc c'est quand même avant l'arrivée de David Krakauer, qui est 98-99, il commence à y avoir un petit une petite scène klezmer à Paris, toute petite.
D'accord. Et là, on va écouter donc un extrait de la compile, on peut dire ça, ouais, qui s'appelle donc Nano Pelé de Denis Cugnot, duo fondé en 1983, Klezmer, Nigunz, Echo. On reparlera justement, on en a parlé un peu off, de ce que c'est que ces fameux Nigunz. Et donc, on va écouter un titre, c'était le premier des trois disques, un extrait du premier des trois disques, et le morceau s'appelle Gyura Mon Amour.
Voilà, donc dès 89, même si on avait commencé en 83, mais 89, c'est notre premier disque, on fait une signature d'hommage à notre modèle, enfin, modèle émotionnel.
Ben on y va, Gyura Mon Amour.
Thank you.
Franck Allier, Radio Libertaire. Alors, donc là, c'est toujours Fantemine, toujours avec Denis Cugnot, Chloé Priot, Pierre Riccardi. Donc, on va vous écouter bientôt en live, puisque nous faites le plaisir de jouer en live, Chloé et Pierrick. Mais encore un petit mot sur vous deux. Alors, apparemment, donc, malgré tout ça, ça ne s'est pas fait si facilement, hein, le duo, l'élaboration d'un répertoire.
Malgré tout, ça...
C'est-à-dire, le fait que toi, tu connaissais déjà un peu ce répertoire, il a fallu travailler. Ça a pris combien de temps, en fait, pour élaborer ce répertoire? Combien de temps pour faire le disque?
Alors, on a commencé les premières répétitions en 2021, au moment où il y avait un nouveau confinement ou couvre-feu, ou je ne sais plus très bien. On s'est retrouvés pour répéter sans aucun objectif, et puis ça a été très immédiat, l'envie de continuer, en fait.
On a fait un premier concert en mars
2022,
où on ne jouait pas le répertoire qu'on joue maintenant, où c'était très mélangé.
D'accord.
Il y avait des chansons italiennes, espagnoles, portugaises, des fados. Et il y a eu une vidéo de Farid Deutsch, donc le morceau dont on parlait tout à l'heure, qui a tout déclenché pour nous. Moi qui étais très dubitatif sur la question, ça m'a prouvé que ça peut provoquer quelque chose. Ça nous a donné énormément de concerts derrière. Et
dont des gros concerts, dont les Sud-Arles.
Voilà, les Sud-Arles, j'allais te le dire. Et le théâtre à Caen, 600 personnes. Enfin, ça...
Ouais, on a eu des concerts importants grâce
Comment, pour être plus précis, Pierrick, comment tu élabores ton jeu de guitare par rapport aux morceaux choisis, aux chansons choisies?
Je ne sais pas. Je réfléchis pas tant que ça. Enfin, je joue avec ce que j'ai. Moi, je suis quelqu'un qui joue au doigt. Je ne suis pas quelqu'un qui joue au médiator. Et je ne suis pas quelqu'un qui joue majoritairement de la nylon. Je suis quelqu'un qui joue de la guitare corde acier. Je viens de la musique irlandaise, traditionnelle, donc... et du classique parallèlement. Mais à l'époque, je ne jouais pas de guitare, j'étais clarinettiste, donc c'est deux choses qui n'ont rien à voir. Enfin, si, ça a à voir avec la musique, mais ça n'a pas à voir avec ce dont on parle là. Je ne sais pas, c'est comme ça que j'ai pensé... C'est pas que j'avais envie de faire du fado, c'est que j'ai eu envie qu'on fasse ce duo. C'est pas du tout la même chose. Il y a des choses dans le fado, moi, qui me touchent pas beaucoup. Des chanteurs ou des chanteuses. Je dirais même que ça me touche pas du tout selon comment on fait les choses. Donc c'est quelque chose de très ciblé. Je sais pas, Valeo Apenas, j'ai découvert ce chant avec Carlos Ramos, qui est un chanteur des années 50 et 60, et qui a une manière de chanter assez nonchalante, comme s'il s'en foutait un peu. Ce qui est complètement faux. Il est intense au possible, mais c'est une manière de faire. Ça m'a touché. Je ne connaissais absolument pas ça, moi, du tout. Il y a des chanteuses qui forcent énormément les choses, qui sont extrêmement dans l'emphase et tout ça. Il y en a d'autres beaucoup moins. Donc c'est comme dans tous les styles, c'est comme dans le jazz. Il y a des gens dans le jazz qu'on trouve extraordinaires et d'autres qu'on n'écoute jamais, même si c'est des grands personnages. Je ne suis pas très attiré justement par peut-être... Non, je ne sais pas, c'est compliqué de parler de ça, mais j'ai fait ce que moi, il me semblait bien de faire pour que ça fonctionne tous les deux.
D'accord.
Et puis, ce que je sais faire aussi, mais je suis très content de l'avoir fait parce que mon jeu, il a évolué à la nylon, en tous les cas, vers une direction que je pensais pas, que j'aurais pas pensé possible, en fait. J'étais pas du tout là-dedans.
D'accord.
Et donc, je suis très content de ça.
Oui, et puis nous, on est content aussi de vous entendre chanter et jouer. Alors là, c'est le morceau que tu m'avais dit. Hein. Là, je prononce mal comme d'habitude. Hein, on va se moquer de moi, mais c'est tant pis. Et où Jao Niao Sei.
Et où Jao Sei.
Presque, hein.
Et où Jao Sei, c'est pas mal.
C'est nous, hein, pas mal quand même.
Je ne sais plus.
Je fais des progrès, hein, quand même.
Le début du texte, du moins, ça dit « Je ne sais plus, et où Jana Osei, si j'ai bien fait ou mal fait de mettre un point final à notre passion ardente, Mais ce que je sais, c'est que je rêve de toi la nuit et que j'ai envie de me jeter dans tes
c'est
bras.
C'est assez international, pardon, la traduction.
Et on vous écoute donc en direct dans l'émission Folcalier, dans la 1970e, Chloé Briot, pardon, et Pierre Riccardi.
Já não sei se fiz bem ou se fiz mal em pôr um ponto final na minha paixão. As mágoas que o peito sente quando te vejo e em sonhos sigo os teus passos, sinto o desejo de me lançar nos teus braços.
On redescend là dans l'émission. Bravo, merci beaucoup.
Merci,
Brio et Pierre Riccardi.
Magnifique, magnifique.
C'est magnifique, merci.
On ne peut pas redescendre là, franchement.
On n'a même pas osé applaudir, hein, tu vois, parce que là c'était vraiment.
Fait petit, ça aurait fait trop petit.
Voilà, c'était. Merci beaucoup. Vous allez rejoindre un autre morceau tout à l'heure. Hein. Donc, tu nous redis le titre du morceau, Chloé ?
Ce qu'on vient d'entendre, ça s'appelle Eojana Osei, et c'est un morceau qu'on peut trouver sur le disque aussi, d'ailleurs, Valeo à peine. Qu'on peut trouver sur Bandcamp. Voilà, si vous tapez duo Chloé Brio Pierre Ricardi Bandcamp, vous allez tomber sur le disque si vous avez envie de l'écouter en ligne, à défaut de pouvoir l'avoir en physique.
Bon, on revient vers toi, Denis. Alors, la rencontre avec...
Dès qu'on a envie de pleurer, tu mets le point final, vrai. Le punto final, et c'est bon.
C'est magnifique. Bravo. En plus, dans l'intimité du studio, là, on est bien, et je crois qu'on va faire une émission de 3 heures, ça t'ennuie pas, Laurent. En plus, il n'y a personne après nous aujourd'hui, donc je sais que certains animateurs prolongent un peu l'émission quand il faut. Hein. Donc on va voir. Denis, ça y est, on est redescendu. Ça va aller. Raconte-nous un peu la rencontre avec Nano alors.
Non mais c'est ça, c'est vraiment, tu vois, 75-82, on est dans les groupes de free jazz, donc Arkansas, le groupe Low, Bécumernis, le Big Band, et puis voilà, on sympathise. Et puis Nano qui est né dans la Creuse, à la souterraine sous-préfecture, c'est lui qui m'amène la musique de ma mère.
C'est ça, c'est incroyable ce soir.
Ouais, c'est marrant.
C'est incroyable. Et donc ça s'est fait assez vite, cette amitié. Je crois que c'est lui qui t'a proposé.
Oui, c'est ça.
Hein, c'est ça. Et alors, une proposition de Nano, hein, donc de monter un répertoire Klezmer. Vous disiez acidique à l'époque. Hein, donc,
on ne savait pas la nommer, ouais.
Oui,
ouais, c'est du Yiddish blues, racidique.
Et tu disais aussi, ou j'ai lu aussi, que personne ne connaissait donc cette musique-là en France.
Non.
Et comment s'est fait alors le répertoire de ce premier disque, dont on a entendu un premier extrait tout à l'heure, qui aura mon amour.
On commençait quand même, on avait ce disque de Gyura Feynman, il commençait à y avoir des cassettes des États-Unis qui circulaient, et on avait des traces. En fait, autant, il n'y a aucune trace d'enregistrement authentique en Europe, et par contre, on a ce peuple qui est le peuple du livre, donc un nombre de chansons incalculables, qui a été préservé. Des chansons, donc des mises en musique de poèmes, et qui étaient y compris aux États-Unis, mais on a, là, il y a des dizaines de milliers en tout, là, les musiques Klezmer, moi j'ai fait le calcul, qui ont été enregistrées en 78 tours, il n'y a même pas 750 thèmes, ce qui est rien. Alors que des chansons, des poèmes, il y en a des dizaines de milliers. Donc on a fait un mix avec Nano, on reprenait des chansons sans mettre les paroles, on avait un peu de choses du théâtre yiddish, un peu de choses de l'Est, enfin voilà, on s'était...
En fait, dans le disque, il y a des compositions beaucoup aussi. De Nano.
Il y a aussi ça, ouais.
Oui. Mm-hmm. Là, on va écouter... un extrait, c'est le deuxième disque, j'ai choisi exprès un extrait des trois disques. Là, c'est improvisation autour d'une variation sur un thème.
Oui, ça c'est bien que tu aies choisi ça. En fait, il y a un thème qui est une chanson justement, qui est la Grinée Cousine, ce qu'on appelle une bleue, c'est-à-dire en fait une verte. Elle arrive aux États-Unis, elle est sûre qu'il suffit de se baisser pour avoir de l'or. Et évidemment, elle va passer toute sa vie dans des ateliers clandestins. Elle n'aura ni fiancé, ni d'argent. Et à la fin, elle dit que Dieu brûle Columbus, les États-Unis. Et donc, on a fait des variations là-dessus, des variations sur Crin et Cousiné, la chanson. Et puis alors là, c'est la variation sur la variation. Je pense que c'est une improvisation assez rapide de Nano Pélès, je crois. Mais c'est bien que tu aies choisi ça, c'est marrant. C'est une pure impro, ouais.
Bon, alors c'est sur CD2, et c'est le numéro 1 du CD2.
Non, j'ai un problème, c'est que les deux CD que tu m'as donné, c'est le numéro 1.
C'est le CD2, ça. Oui, c'est le CD2.
C'est sûr, parce que j'ai le numéro 10, moi, sur ma feuille.
Ah oui, bah c'est...
Donc d'accord, donc c'est le numéro 1 du CD2, laissez-moi
excuse-moi.
Une seconde, parce que il n'y avait que 9 morceaux sur le CD, j'étais un petit peu embêtée.
Bah oui. Il y a 2 fois 9,
pour mettre
en fait,
le numéro 10.
Il y a 2 CD, 2 fois 9.
Oui, mais il m'avait écrit qu'il y avait un numéro 10, il y a un numéro caché, peut-être.
Toujours la faute des animateurs.
C'est ton papier.
Allez, donc c'est bien l'extrait numéro 1 du CD2.
Je mets ça tout de suite.
Et voilà, c'est parti. Et désolé pour ces quelques secondes. Et
rien,
excuse-moi, Denis.
C'est les aléas du direct.
Non, c'est
voilà, c'est les aléas du direct.
Comme ça, on ne redescend pas tout de suite.
C'est parti.
Et là, j'ai le même problème. Tu m'as mis le numéro 16. Et donc, le numéro 16, ça n'existe pas. Le 7. D'accord. Merci. « Ça me gêne pas. Pas grave, ce sera plus cher. Je suis bénévole, hein.
Folkélier, Radio Libertaire, c'est la 1970e et c'est 89.4 toujours et c'est toujours Fontaine avec les trois invités, Chloé Bireyo, Pierre Riccardi et Denis Cugnot. Alors là, donc, on a écouté un extrait du deuxième disque qu'on retrouve sur la compilation.
Ouais. Hein.
Alors la compilation s'appelle, que j'ai bien sous les yeux, s'appelle Klezmer Nigun Senko. On en a un peu parlé.
Klezmer Nigun Senko, ouais.
Tu peux nous dire, pour les auditrices et auditeurs qui ne connaissent pas forcément Niguns.
Ah, les Niguns, oui, ben c'est des mélodies sans paroles. Ce n'est pas une chanson, mais c'est une mélodie. En général, c'est très inspiré, quoi. C'est une mélodie un peu intérieure. C'est presque des... On pourrait dire, tu sais, comme il y a des mélodies bouche fermée, quoi. C'est vraiment des Niguns. Mais ah, qui ne sont pas non plus une prière. Ce n'est pas une prière, c'est un Nigun.
D'accord, c'est un Niguns. N-I-G-U-N. Et donc, on continue un petit peu. Donc, ça, c'était le deuxième disque. Hein.
Ouais.
Donc, déjà une différence entre le premier disque ou c'est la continuation?
En fait, c'est une continuation, mais en même temps, dans le deuxième, c'est là où on prend plus de risques de création. Par exemple, il y a une improvisation, là, on n'écoutera pas. On l'écoutera à la deux millième émission de Folkallier, Franz Mine. Non, il y a une... qui dure 11 minutes, une improvisation totalement libre. Donc c'est pour ça qu'on a intitulé le deuxième disque musique Klezmer d'hier et de demain. Donc voilà. Autrement, non, c'est le même. De toute façon, c'est le même duo, c'est la même instrumentation. On a enregistré dans le même studio, c'est le même piano. Mais dans le deuxième disque, il y a plus de... justement, de comment on peut composer tout de suite de la musique vieille. Enfin, c'était ça, ce qu'on avait inventé avec Nano. C'est musique traditionnelle, c'est de la musique vieille, sauf que comment on fait avant qu'elle soit vieille? Elle était neuve. Donc voilà, c'était. Donc, ce deuxième disque, il marque des prises de risque totalement de création.
Et alors, quand vous avez commencé le duo, est-ce qu'après, à ce moment-là, est-ce qu'il y a eu d'autres musiciens qui ont envie de refaire cette musique en dehors de vous?
Écoute, moi, en l'an 2000, la saison 2000-2001, avec des copains, on reprend le café-théâtre qui s'appelle La Vieille Grille, créé, tu vois, dans les années 60 par Maurice Alezra, avec, y compris l'arrivée du free jazz avec, dans la cave en dessous, et puis les débuts d'Higelin, Reski, Brigitte Fontaine, Rufus, Zouk, enfin, non. Et moi, je suis chargé de faire une programmation une fois par semaine de musique juive, klezmer, tu vois, une musique instrumentale. Et en fait, en tout, je trouve à Paris 4 groupes que je fais tourner sur l'année. Et en fait, donc tout va se déclencher après, quoi, à partir de 2002-2003. Effectivement, par l'arrivée de David Krakauer. Mais si tu veux, donc dans les années 90, on est vraiment très très peu. Mais très très peu. Et alors après, il y a le fait que Nano, en même temps qu'on a commencé, nous, en 86, il rentre dans Bratsch. Ça veut dire que là, Bratch, ça veut dire que c'est 100 dates par an. Et donc, non. Il est assez peu disponible. Et par contre, dans Bratch, il va y avoir, avec Bruno Girard, les chansons yiddish. Et il va y avoir aussi quelques musiques. Il y a tout ce qui est tzigane, grec, arménien, tzigane roumain. Mais il y a aussi un peu de klezmer. Et donc, il y a des morceaux qu'on joue avec Nano qui vont être joués par Bratch avec le quintet, quoi, en fait.
D'accord. Et toi, tu as joué avec Bratch aussi?
Ouais, des fois, j'étais invité. Ouais, chaque année, ils faisaient une tournée à 18-19 et j'étais invité à jouer avec eux. Voilà.
D'accord, une belle aventure, Bratch, qui a duré bien longtemps. On avait reçu ici, on les a tous reçus. Dan Garibian, évidemment, ouais. Bruno Girard, tout ça.
Donc, c'est le dernier concert de Bratch, c'est décembre 2015.
Oui, à l'Européen.
Non, au Théâtre du Soleil, chez Mnouchkine.
Au Théâtre du Soleil, c'est vrai. Une série au Théâtre du Soleil. Ouais. Mais avant, il y avait vu l'Européen.
Ah, bien
aussi.
Sûr, il y avait. Et donc, moi, je continue à travailler avec Bruno Girard et puis avec Nano comme compositeur.
D'accord. Et donc les compositions, là, puisqu'il y a beaucoup, comme je te le disais tout à l'heure, il y avait beaucoup de compositions de Nano quand même, il n'y avait pas que des traditionnelles. Donc pour lui, ce n'était pas un problème de pouvoir composer sur des textes ou sur des mélodies existantes déjà. Comment ça se passe?
Non, je ne sais pas. Alors là, ce n'est pas de l'appropriation culturelle, enfin, c'est débat absurde maintenant, mais il s'est pris de passion pour cette culture yiddish et ces musiques-là, et par ses amis. Par ses amitiés, il s'est presque tout en. En fait, un jour, par exemple, en 92, on fait un grand festival autour du judaïsme français, et Nano, carrément devant 2000 personnes, dit « À toute façon, je vous signale, moi, je suis pas juif. » Les gens ont rien compris, parce que tu vois, il était d'abord, il s'est parce qu'il était investi dans cet univers, mais il est pas du tout. Et c'était très bien ainsi.
C'est très bien qu'il y ait des musiciens qui ne sont pas d'un univers qui s'unissent, je trouve plus le terme, mais bon, vous m'avez compris, qui s'immisce dans un autre univers. J'en connais une, hein, d'ailleurs, une chroniqueuse de Folkali qui fait ça aussi. Et alors, Chloé, pour revenir avec toi, donc, c'est plutôt toi ou c'est plutôt Pierrick ou tous les deux qui choisissaient le répertoire?
On le fait ensemble, en fait. Après, le fado, c'est vrai que moi, j'avais chanté beaucoup de choses déjà. Naturellement, quand on a commencé à travailler... J'ai amené certains morceaux à Pierrick, mais finalement, aujourd'hui, de ce que je faisais avant, il ne reste pas grand-chose. Je crois qu'on a vraiment bâti le répertoire, tous les deux.
Il y a un petit peu de musique brésilienne aussi, on en parle.
Et la musique brésilienne, c'est Pierrick qui a vraiment tout amené pour le coup. Là, moi, je connaissais rien.
Après, j'avais pas du tout envie qu'on joue des bossa ou des samba ou quelque chose qui soit typique et marqué rythmiquement. Parce que ça marchait pas. Ça marchait pas avec l'ambiance que ça crée de faire 4 ou 5 fados, ça crée un univers particulier, même s'il y a des morceaux à tempo, même s'il y a des morceaux up, de mettre quelque chose, jouer samba, bossa, j'avais pas envie de toute façon. J'ai fait beaucoup cette musique-là, le mieux que j'ai pu d'ailleurs, qui est quand même une musique très difficile à jouer, bien. Mais j'ai pris des morceaux qui étaient... J'ai choisi des morceaux qui étaient des choses qu'on pouvait traiter de la même manière que moi je traitais les fados. En fait, c'est ça qui m'intéressait. Où ça change, c'est que harmoniquement, quand dans le fado, je parle de base, quoi, même traditionnel et tout, il y a 3 accords, au Brésil, il y en a 60, quoi. Donc ça fait une bascule harmonique et une bascule de couleurs très forte. Et qui est déjà très forte, et la complexité de la mélodie aussi, qui est très différente. On joue Retrato, par exemple, qui est un morceau de
Chico
Buarque et Jobim, qui est extrêmement complexe mélodiquement. C'est pas quelque chose qu'on retient et qu'on va chanter derrière, ça. Si on se penche pas dessus, on le fait pas. Donc c'était intéressant le contraste entre un fado traditionnel, un fado chanson qui a été écrit, qui n'est pas traditionnel, mais écrit pour quelqu'un, par exemple, comme Alain Houlman pour Amalia Rodriguez. Et puis une chanson brésilienne plutôt lente, je dirais, ou qu'on peut jouer libre. Ça crée pas mal de contrastes déjà. C'est assez fort. C'est ça qu'on a cherché pour avoir un truc qui a un sens entier.
C'est
quoi.
Ça. Moi, je peux vous dire que c'est très réussi. Voilà. Et on va vous écouter, parce que... Hein, on va vous écouter à nouveau. Hein. Alors là, c'est toi, Chloé, qui va dire le titre.
Alors, ça s'appelle Foi Deus.
il y a un petit changement de micro dans le studio. Voilà.
Ça s'appelle Feuille des Houches. Et c'est une histoire un peu particulière. Alors déjà pour nous personnellement, c'est un morceau qui nous est très cher parce que c'est le morceau dont parlait Pierrick tout à l'heure, qu'on a joué au premier concert qui a été filmé, grâce auquel on a eu beaucoup de concerts par la suite, dont des concerts importants. Et ce morceau, en fait, c'est un morceau du répertoire d'Amalia Rodriguez. Il a été composé, texte et musique, écrit par un pharmacien qui un jour a frappé à la porte d'Amalia Rodriguez en lui disant « Voilà, j'ai écrit une chanson. »
« C'est pour vous. » »«
C'est pour vous. » Tous mes amis me disent qu'il faut que je vous la montre. Et ben voilà, je vous la montre. Il s'est mis au piano et il a commencé à jouer maladroitement. Et elle a tout de suite vu que c'était pour elle, en effet. Et ce monsieur s'appelait Alberto Janesch et il a écrit ça vraiment pour elle. Ça dit « Je ne sais pas pourquoi je chante avec cet air de douleur et de plainte, mais pendant que je chante, tous mes tourments se calment et calment mon âme. » Voilà. Que canto o faro deste mundo magoado de dor e de pranto e neste tormento todo sofrimento eu sinto calma cá dentro se acalma nos versos que canto. Foi Deus que deu-lhe os olhos, perfumou as rosas, deu ouro ao sol e prata ao luar. Foi Deus que me pôs no pé de penas que vou despendo e choro a cantar e pôs estrelas no céu. Canto, não sei o que canto. Misto de aventura, saudade e ternura e talvez amor. Mas sei que cantando foi Deus que deu voz ao vento, luz ao firmamento e deu azul às ondas do mar. Foi Deus que me pôs no peito um rosário de penas que
Es poeta orucinul, poșnoc în pou alegrin, eu explorez a primavera. I de o mește voș,
Chloé Brio, Pierre Icardi pour un deuxième live en direct sur Folgalier. Merci beaucoup Chloé, merci beaucoup Pierrick. C'est pour ce beau cadeau. Alors j'ai vu que tu avais ton ukulélé, mais bon, c'est,
hein, c'est... Une autre fois.
Ouais, une autre fois.
Pour la 2-3 millième.
Voilà. Non. On revient vers toi Denis encore, parce que là j'ai lu comme ça que vous étiez posé beaucoup de questions avec Nano, et finalement tu avais répondu en disant que il avait mis à jour le concept de musique pré-traditionnelle.
Oui, ben c'est vraiment le, comme il y a la civilisation précolombienne, c'est avant d'être traditionnel, qu'est-ce que c'est neuf quoi, c'est moderne, c'est nouveau. C'était des jeux de mots, mais qui disaient quelque chose. Qui disaient, quel est le rapport entre la dialectique, je dirais, entre la création et le patrimoine. Enfin, et ce qu'il y a, c'est que, en fait, ce qu'on peut voir, c'est que sur les musiques traditionnelles, qui sont vraiment qui sont vraiment dans une vallée, dans une montagne, dans une région très précise, l'évolution est assez lente. Il faut plusieurs générations pour que la modernité transforme la tradition. Mais sur des musiques populaires, où il y a le voyage, où il y a le métissage et tout, ça va à une vitesse totale, quoi. Mmh. C'est pour ça que est-ce que c'est la musique traditionnelle ? Moi, je pense qu'en fait, que ce soit les musiques tziganes ou les musiques populaires, c'est des musiques populaires, c'est pas des musiques traditionnelles, parce que c'est des musiques de voyage. Et par là même, l'acculturation, elle se fait partout. Parce qu'en fait, les tziganes, ils disent, ils prennent le bien où ils le trouvent. Donc, ils mélangent.
Ça évolue tout le temps.
Mais ouais.
La musique ne s'apprend pas, elle se vole. C'est les paroles de... Pardon. Je me souviens d'un concert des Taraf de Haïdouk où quand le papy, dont son nom m'échappe, qui jouait du violon, notamment les solos avec la corde de vélo, on lui avait demandé où est-ce qu'il avait appris la musique. Il avait eu un fou rire, mais qui avait duré je sais pas combien de temps. Il avait dit, non mais vous pensez quand même pas que la musique, ça s'apprend. Ça se vole.
Bon, pour revenir plus sérieusement à tout ce qu'on disait, donc il faut... Où on en est là, de la musique klezmer, de tout ça, actuellement?
Est-ce
qu'il y a beaucoup de gens qui la pratiquent?
Voilà, c'est ça. Déjà, alors, pratique amateur, ça c'est bien, elle est même dans certains conservatoires, essentiellement pratiquée par, justement, des musiciens et des musiciennes amateurs non israélite, non juif, donc c'est formidable, quoi. C'est vraiment l'universalisme de l'émotion. Donc autrement, professionnellement, non, c'est vraiment une niche parmi les niches, parce que... Mmh. Et puis alors après, avec certaines confusions actuellement, c'est pas vraiment... c'est musique d'avant-guerre, quoi, c'est musique d'avant la Shoah, enfin c'est vraiment... ça n'a rien à voir avec Israël, enfin, c'est des musiques non religieuses, comme je le disais, et puis c'est aussi des musiques d'un peuple détruit, d'une langue détruite. Donc en fait, on est sur... Moi, comme je dis toujours, quoi, je suis vraiment sur l'hommage, sur la mémoire du peuple disparu, mais en même temps, donc, aux États-Unis, ça reste totalement communautaire. Ouais. Et en France, non, justement, par ses pratiques amateurs, par les conservatoires, par il y a des tas de fanfares de médecine, de beaux-arts qui mettent un ou deux thèmes. Il y a fanfare de Normale Sup, là, quand je suis à Paris, parce que je suis arrivé ce matin, là, de chez moi, en Normandie, fanfare de Normale Sup, place de la Contrescarpe, ils sont tous Normalia supérieure, ils mettent 3-4 thèmes klezmer, mais au milieu de Java, de tout, enfin voilà, ça. Donc c'est plutôt bien, ça. Et ils savent d'où ça vient. Enfin, oui. Non, en fait, il y a eu... Mais professionnellement, non, il n'y a pas de musiciens qui peuvent vivre en France que de la musique dite klezmer.
Bah, tu continues, hein, de toute façon.
Oui. J'ai encore 3-4 projets d'enregistrement. Oui, je continue à enregistrer. Là, c'est important parce que il faut laisser des traces, justement, de ce courant-là. Donc là, c'est grâce à Gilles Fruchot, puisque tous mes disques sont chez Buda Musique, là, ça doit être le 12e ou le 13e.
Et encore une fois, on salue Gilles Fruchot et tout le boulot incroyable.
Tout le boulot incroyable.
Depuis des années.
Merveilleux, Gilles.
On pense bien à toi, Gilles.
Ouais, toujours imité, jamais égalé, Buda Musique. Et non, et c'est Gilles qui a voulu, parce qu'il met, il remet son catalogue un peu pour le, justement pour l'avenir. Et donc c'est Gilles qui m'a, Gilles Fruchot qui m'a dit tiens on va faire une anthologie du, des disques du duo Pellecugno. C'était vraiment une, voilà, c'est Gilles en tant qu'éditeur discographique et c'est encore un cadeau qui me fait, qui vous fait.
Et c'est un très beau cadeau pour nous aussi, pour toutes les auditrices et tous les auditeurs. On va écouter un dernier morceau du disque. Alors donc tu vas nous en parler parce que le titre est peut-être pas forcément compréhensible pour tout le monde.
Racidique.
Chassidique Dance et Berdichever Chassidique.
Alors en fait ça c'est intéressant, Racidique Sangle. Les racides c'est eux qui vont, racide c'est un courant fin 18e siècle en Pologne, en Ukraine, en Galicie, enfin, qui est un courant où, qui va être courant de rabbins. Il y en a assez d'être dans l'étude du livre tout le temps. Il faut qu'on ait aussi un rapport direct à l'éternel, et par le corps, par la danse, et par la musique. Il faut savoir que jusqu'au XVIIIe siècle, la musique, elle est interdite. La musique instrumentale est interdite depuis la destruction du deuxième temple au début de notre ère. Okay. Il est estimé par les autorités rabbiniques que la musique, si le temple a été détruit, c'est parce qu'il y avait trop de musiciens, plus que c'était... Non, il y a un vrai problème. Et c'est, les, c'est le mouvement racidique. Qui est un peu l'équivalent chez les catholiques de ce qu'on appelle les charismatiques, les chachas, enfin, le corps, et qui va permettre la réapparition d'instruments de musique. Donc, racidique song, c'est le son de chanson des racidiques. Et le Rosside, là, Berdichever, c'est une ville qui existe toujours en Ukraine. C'est d'ailleurs la ville où Balzac s'est marié avec sa comtesse, qui était une ville très juive et qui a complètement, où toute la population a disparu. Et le Rosside, c'est une des danses possibles. Hein, c'est, voilà. Donc, là, on enchaîne, donc, le racidique song et le Berdichever Rosside. Berdichever Rosside, on a un enregistrement de 1916, et ça, j'adore. On ne sait absolument pas qui joue le nom de l'orchestre et on ne sait absolument pas qui a composé. Donc on est dans le double anonymat. Moi, tu vois, je m'étais jamais
on
traditionnel.
Sait l'année, hein, quand même, donc. Hein? On sait l'année, donc, quand même.
Ouais, l'enregistrement, ouais. Mais tu vois, c'est ça aussi sur les musiques populaires ou traditionnelles. Moi, je ne mets jamais trad, je mets anonyme. C'est-à-dire que ça a été composé à un moment donné. Mais on saura, et peut-être on saura un jour, tu vois. Donc voilà.
Bon, ben, on va écouter ça, mais avant, ben, ça passe vite.
Ah, on a
ça passe vite et c'est déjà fini. Ouais. Ben, je vous remercie, Chloé et Pierrick, des projets.
Merci à toi.
Oui, alors, on a toute une série de concerts à Paris, à côté de Paris, au mois de mars. Si vous voulez être informé, il vaut mieux aller sur notre page Facebook. C'est un concert hommage qu'on va faire sur plusieurs dates à Alain Houlman, le compositeur dont on parlait, qui a beaucoup écrit pour Amalia Rodriguez.
Ce sera où ?
Voilà. Et alors, il y a plusieurs dates. On va jouer à l'Osteria à Rosny-sous-Bois. On va jouer à la Maison du Portugal à la fin du mois de mars. On a deux dates au Connétable. Et on a une date plutôt privée, là, à Torcy. Mais le mieux, c'est vraiment d'aller sur Facebook ou Instagram en tapant notre nom et vous serez informé des concerts.
Et Denis ?
On là, j'ai la chance, on va à Vilnius, en Lituanie, parce que quand on a joué avec Bruno Girard et Rémi Luzzari, notre trio, on a joué au Théâtre de la Ville en octobre, et le Théâtre de la Ville invitait, avait fait un focus Lituanie, avait invité, il y avait trois semaines sur la Lituanie, avait invité un orchestre fanfare, grosse fanfare, mais il joue très très bien, professionnel de Vilnius. Puis comme ils ont beaucoup aimé notre rencontre, ils nous invitent à Vilnius, on va être le 27 mars. Donc ça c'est vraiment super, parce que humainement c'est super, c'est des jeunes musiciens qui jouent très très bien, qui sont, et alors là aussi il n'y en a pas un qui est juif, et ils jouent cette musique en la défendant, et puis en avril je suis à Perpignan, festival de musique sacrée en piano solo. Donc.
D'accord, puis, plein de projets, ouais. On vous remercie en tout cas d'être
merci
venus
beaucoup,
tous les trois.
Merci
pour...
à toi François.
Merci
pour le live, pour les deux lives, merci à toi à Laurence,
merci
à la
Laurence.
Technique. Alors la semaine prochaine c'est Serge qui revient avec un invité dont je ne sais plus le nom, après c'est Hervé, et puis moi je reviens avec une nouvelle chroniqueuse pour la prochaine émission. Normalement, Ninon reviendra dans quelques mois parce qu'elle est très occupée avec la sortie de son nouveau disque. Donc elle reviendra, pour ceux qui aiment les chroniques d'un jour bleu de Ninon, elle reviendra dans quelques mois. Mais c'est nous, je ne dis pas qui sera, ça sera la surprise le prochain mois. Et puis, bah voilà, continuez bien. Hein. Et puis, bientôt le printemps qui arrive, heureusement, parce que là, ça commence à devenir un peu épuisant quand même, cette pluie. On vous embrasse, on
merci
vous
beaucoup.
Salue. Et puis, merci encore d'être venus si nombreux le 8 et le 9.
Merci,
à bientôt.
Merci,
au revoir. Thank you.
We'll be right back.